Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, Corée, ville du Nord, ville du Sud. Ça ressemble à l'histoire des jumeaux que l'on sépare à la naissance et dont on se demande comment ils deviennent différents tout en restant si proches. Que reste-t-il de leur éducation, de leurs souvenirs en commun depuis qu'ils ne vivent plus ensemble? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser ce soir, mais au sujet des deux Corées. Avec au nord un pays appauvri de 23 millions d'habitants vivant sous un régime dictatorial et au sud, un état de 52 millions d'habitants devenu démocratique qui appartient au club des 15 pays les plus riches du monde. On racontera comment les villes mais aussi l'économie et la vie quotidienne a divergé des deux côtés de la zone dite démilitarisée.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et nous parlons de cette péninsule à deux états avec la géographe et coréanologue Valérie Gilesot, directrice d'études à l'EHESS, autrice notamment du livre « Urbanité coréenne » avec Benjamin Joanneau aux éditions de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Et puis on lui doit également, entre autres, le livre « Séoul, ville géante, cité radieuse », c'est chez CNRS Éditions.
Des flèches, un plan, des ronds et des points, c'est la carte introductive.
Bonsoir Valérie Gilesot.
Bonsoir.
Alors, comme le veut la tradition, vous nous avez transmis une carte qu'on peut visualiser sur le site de l'émission. Elle représente les deux Corées avec certaines villes qui sont mises en avant. Pourquoi ces villes-là sont-elles mises en avant et qu'ont-elles en commun?
Alors la question c'était, je crois sur le site, combien de capitales y a-t-il en Corée?
C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8.
Ou même plus. Et donc ici, on voit une carte effectivement avec plusieurs types de ce que j'ai appelé des capitales. Alors, nous voyons Pyongyang et Séoul qui sont les deux capitales des deux États coréens.
Donc c'est laquelle on pense quand même,
voilà,
spontanément.
Quand on pense spontanément aux capitales coréennes. Et puis, plusieurs autres capitales apparaissent. Tout d'abord, deux capitales historiques, chacune dans son pays, donc Gyeongju au sud et Kaesong au nord, qui sont des capitales d'États que j'appelle légitimement de l'histoire coréenne. À travers ces capitales, on peut percevoir les histoires parallèles des deux Corées. Chacune des Corées se raconte une histoire qui légitime son existence contemporaine. Et c'est ainsi que Gyeongju, la capitale historique légitimement du sud, est la capitale d'un État qui a occupé une grande partie de la péninsule, qui est considérée par la Corée du Sud comme le premier État unifié de la péninsule.
Le royaume de Silla.
Voilà, le royaume de Silla.
Silla.
Et qui a fait l'objet de toute une politique très importante patrimoniale dès les années 70 par le général Park Jong-hi, qui était donc le président de la Corée du Sud. Tandis qu'au nord, Kaesong est au contraire une des capitales du royaume postérieur, donc qui a suivi le royaume de Silla, qui est le royaume de Goryeo, un royaume médiéval dont les capitales étaient plutôt au nord de la péninsule et qui s'étendait également sur l'ensemble de la péninsule. Et donc bien évidemment, chacune des Corées légitime la capitale qui est de son côté comme étant la capitale du premier État unifié de la Corée.
Parce que l'enjeu, c'est de représenter la Corée dans son ensemble.
Absolument.
Et donc de chercher ce qui, dans l'histoire, évidemment, plus favorable, soit au territoire du Nord, soit au territoire du Sud.
Voilà, et ce qui est intéressant, c'est de se dire que les deux histoires sont vraies, en fait. Tout dépend de ce qu'on considère. Si on considère, par exemple, les structures étatiques, si on considère la transmission des premières structures mandarinales, par exemple, c'est en effet le royaume de Silla qui a commencé à transmettre tout un tas de traits culturels très stables, qui ont perduré pendant toute l'histoire prémoderne de la Corée. Tandis que si on considère plutôt l'extension territoriale du premier État unifié, c'est plutôt l'État de Goryeo, donc avec ses capitales nordiques, si on peut dire comme ça, qui était le premier État unifié. Donc, dans un certain sens, hein, les deux histoires sont justes. Et donc, c'est tout à fait intéressant de constater ce double discours.
Mais alors, il y a Séoul, qui en termes de taille est la ville la plus grande de la péninsule, Séoul, qui signifie capitale.
Absolument.
En coréen. Est-ce que ça signifie que Séoul est davantage une capitale
Alors,
depuis plus longtemps pour valoir ce titre de capitale, ce nom de capitale?
Alors d'abord, Séoul ne s'est pas toujours appelé Séoul. Hein, Séoul est capitale depuis 1394, hein, c'est-à-dire donc depuis l'état de le royaume des Yi, hein, qui a régné en Corée à partir de la fin du XIVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle et jusqu'à la colonisation japonaise. Hein. Et donc c'est une capitale qui a 600 ans d'histoire quand même, et qui a donc eu plusieurs noms. Hein. Elle s'est d'abord appelée Hanyang. Pendant la colonisation japonaise, elle s'est appelée Gyeongsong. Et puis, effectivement, après la colonisation japonaise qui a duré entre 1910 et 1945, Séoul a été baptisé Seoul, qui effectivement, en coréen pur, signifie capitale, et qui d'ailleurs reprend le nom vient du terme Sobol, qui était l'ancien nom de la fameuse capitale sudiste. Mm-hmm. Hein. Donc de Gyeongju, qui aujourd'hui s'appelle Gyeongju.
Alors
donc,
on s'y perd un peu parce qu'en effet, oui, il y a encore d'autres capitales qui ont été dans l'histoire des villes importantes. Il y en a une sur laquelle il faudrait peut-être s'arrêter un petit peu, c'est la capitale putative, c'est-à-dire une capitale qui ne serait ni Séoul ni Pyongyang si jamais les deux Corées étaient réunifiées. Parce que évidemment, on imagine bien que le Nord ne souhaiterait pas que la capitale soit Séoul et le Sud n'aimerait pas que la capitale soit Pyongyang. Il faudrait trouver un juste milieu.
Alors, je crois qu'il faut quand même rappeler que Séoul a été capitale de la Corée du Nord jusqu'en 1978, hein, puisque la Corée du Nord, chacune des deux Corées, hein, avait pour objectif la réunification, au départ par la force d'ailleurs. Et jusqu'en 1978, c'est Séoul qui était la capitale de la République populaire démocratique de Corée. Pyongyang n'était que capitale provisoire. Je trouve ça tout à fait intéressant.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça.
Eh ben, ça signifie qu'en fait, la Corée du Nord pensait que la situation de division était une situation tout à fait provisoire et que la capitale était Séoul et qu'on allait reconquérir tout simplement l'autre
donc
partie.
Pas réunifier, hein, reconquérir.
Reconquérir, absolument. C'est pour ça que la capitale était Séoul. Donc c'est tout à fait intéressant de bien dire que c'était une reconquête dans l'esprit, donc, qui ne s'est jamais évidemment produite. Et donc, alors moi je connais moins bien les supputation nord-coréenne sur la future capitale de la Corée, mais en tout cas en Corée du Sud, hein, donc des instituts de recherche, disons, épiloguent sur les possibles futurs. Séoul fait évidemment partie des futurs possibles, mais une capitale qui peut être considéré par les Sud-Coréens, même c'est Kaesong, c'est cette capitale en fait qui se situe aujourd'hui en Corée du Nord et qui est une capitale historique plutôt du Nord, mais qui a été épargnée aussi, elle est tout près de la zone démilitarisée. Elle a été relativement épargnée pendant la guerre parce qu'elle était le siège des armées, et du coup ça peut être une capitale future.
Songdo, alors là près de la zone démilitarisée aussi. Mais côté sud serait aussi une option possible.
Alors non, Songdo ne serait pas une option possible. Songdo est connu parce que c'est une ville internationale, une ville nouvelle, hein, qui a été développée alors dès les années 80 dans la région de Séoul, mais qui a été promue comme ville internationale au début des années 2000, et qui est aujourd'hui connue pour être un exemple de ce qu'on appelle Smart City, les villes intelligentes.
Sur votre carte, il y a marqué capitale annexe en construction.
Voilà, c'est une capitale annexe en construction, qui est une capitale qui tire en fait la région de Séoul dans la dynamique des relations internationales. Elle est associée aux grands ports, à des communications, etc.
Alors, Valérie Gélézo, vous êtes coréanologue, ce qui signifie que vous êtes spécialiste du monde coréen.
Oui.
Au fond, c'est de ça dont on va parler ce soir, du monde coréen, avec évidemment la partition nord et sud. Mais pour vous, c'est important de rappeler qu'il y a quelque chose qui fait unité finalement.
Absolument.
À la fois entre le nord et le sud, et puis peut-être même aussi avec la diaspora.
Et j'aime beaucoup cette expression. Parfois, je parle moi de méta-nation, mais j'aime l'expression de monde coréen ou méta-nation. qui désigne une entité assez complexe, c'est-à-dire cette civilisation qui a une très longue durée, qui a une unité. La Corée était une grande civilisation dans l'histoire. C'était évidemment dans le système des relations internationales en Extrême-Orient, un royaume vassal de la Chine, mais extrêmement riche. Quand les ambassades sud-coréennes allaient en Chine, l'empereur chinois était embêté parce que les richesses apportées lui demandaient de rendre l'appareil. Et c'était parfois pas facile de rendre l'appareil à la Corée, qui était une grande civilisation. Donc il y a cette grande civilisation très, très ancienne, très, très cohérente, qui aujourd'hui est divisée en deux États, dont vous avez très bien donné l'opposition dans votre petite introduction, et qui est également associée à une diaspora d'environ 5 millions de personnes, parce qu'on a à peu près 2 millions de personnes en Chine, 1,5 million environ en Amérique du Nord, 700 000 Coréens d'origine au Japon, et puis 450 000 en Russie et dans les républiques d'Asie centrale. Donc on a ce monde pluriel finalement, que moi j'appelle métanation et qu'on peut appeler monde coréen, effectivement.
Mais nous, c'est vrai que en tant qu'occidentaux, ce qu'on voit quand on regarde la Corée, et la ville qu'on voit, c'est Séoul, 27 millions d'habitants, c'est énorme dans l'aire urbaine. On a presque tendance à confondre la Corée, peut-être même les Corées, et le monde coréen avec Séoul.
Alors, je dirais que dans les deux capitales, Séoul et Pyongyang, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Séoul a une place, c'est une grande ville mondiale. Hein. Elle a été, d'ailleurs, dans les années 90, elle avait 9 ou 10e rang mondial. Hein. Aujourd'hui, elle a un peu dégringolé, non pas parce qu'elle a perdu des habitants, mais c'est parce que d'autres villes ont émergé, notamment en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, et voire en Afrique. Donc, elle a perdu son importance, et en Asie. La ville de Séoul est une très grande ville mondiale. Pyongyang n'est pas une grande, n'a pas de pouvoir économique, on veut dire, dans le système monde, mais a un certain pouvoir sur
symbolique.
Le plan géopolitique. Voilà, absolument. C'est quand même une sorte de paria qui fait beaucoup parler de lui ou d'elle sur le plan international. Alors, Séoul, c'est vrai que c'est une très grande ville. Alors, vous avez cité le chiffre de 27 millions d'habitants. Il y a beaucoup de choses autour de Séoul. Il y a la ville spéciale de Séoul, qui fait 10 millions d'habitants, 600 km², hein, 6 fois Paris, en extension, Paris intramuros. Et il y a la région urbaine, effectivement, qui comprend alors d'autres villes millionnaires, un ensemble de villes satellites qui sont des villes millionnaires, qui comprend le port d'Incheon, qui fait à peu près 3 millions d'habitants, et qui comprend la région métropolitaine. Et c'est ça qui fait à peu près, effectivement, 27 millions d'habitants. Hein, donc plus de la moitié
de la population
de l'ensemble de la Corée du Sud. Donc c'est une forme de nébuleuse urbaine, hein, qui n'est pas que la ville de Séoul. C'est vraiment, et d'ailleurs en coréen, on ne dit pas la région de Séoul, on dit la région capitale.
Ouais. On va décrire Séoul comme on va décrire Pyongyang, mais d'abord un petit rappel historique nécessaire.
Le canon s'est tu en Corée. Un étrange silence s'est établi soudain sur la ligne de feu. D'une position à l'autre, les combattants d'hier sont sortis de leurs trous. Ils s'observent. Les signaux s'échangent. Premier geste sans armes. Comme elles sont émouvantes dans leur pauvreté, ces images des premières minutes d'une paix tout de même retrouvée. Est-ce vraiment enfin l'aube d'un temps nouveau? Voici 3 ans, en effet, plus de 3 ans même, les premières explosions éclataient dans ce qui avait été le pays du matin calme. L'ONU appelait le monde au secours. Et après des alternatives diverses, Séoul était reprise et les forces de l'ONU franchissaient le 38e parallèle, frontière idéale entre les deux Corées. 3 ans devaient passer. La poussière de 3 étés et la neige de 3 hivers marqueraient le déroulement de cette guerre sans pitié. C'est tout de même l'armistice, une promesse de paix. De combien de deuils, de combien de souffrances, de combien de ruines cette promesse aura-t-elle été payée? Aux centaines de milliers de morts, militaires ou civils, aux villes incendiées, aux maisons béantes et aux foyers détruits, il faut ajouter la terrible misère d'un peuple.
Les actualités françaises du 6 août 1953 qui relatent l'armistice de Panmunjom. Ce qui est frappant, Valérie Gelézo, c'est que 70 ans plus tard, eh bien, la paix, elle n'est toujours pas signée. c'est toujours ce même armistice qui prévaut. Est-ce que vous pouvez replacer un petit peu les tenants et les aboutissants de cette guerre de Corée, évidemment pas en longueur, mais dans le cadre du sujet qui nous intéresse et qui est celui des villes, pour qu'on ait à l'esprit départ de cette divergence nord-sud.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la division qu'on connaît aujourd'hui pose déjà un problème à dater. Vous donnez comme date 1953, la fin de la guerre de Corée. Tout a en fait démarré à la fin de la colonisation japonaise que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc entre 1910 et 1945, la Corée était une colonie japonaise. Et d'ailleurs, pour connecter avec les villes, c'est pendant cette période que, pendant l'occupation japonaise, les villes ont subi une première période de modernisation très importante, avec la construction des principales infrastructures, avec l'introduction par exemple des plans d'urbanisme, l'introduction aussi de formes culturelles et économiques comme le grand magasin, tout un tas de transformations, de
modernisation. Qui arrive du Japon,
voilà. Donc la colonisation japonaise a été à la fois ferment de modernisation et évidemment aussi une déprédation de la péninsule, hein, puisque le Sud, pour caricaturer un peu, le Sud était le grenier à riz du Japon et le Nord était sa base industrielle pour la conquête de la Mandchourie. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés se sont en quelque sorte partagé le désarmement de l'armée japonaise, donc les Américains au Sud et les Soviétiques au Nord. Et à ce moment-là, les tensions étant ce qu'elles sont, le plan était de permettre à la Corée de tenir des élections politiques et de se réunifier, de se retrouver comme pays unifié. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc on a déjà une première date, 1945, la fin de la guerre. Deuxième date, 1948. Alors le 15 août, puis le 9 septembre, 15 août, élection au Sud, donc proclamation de la République de Corée. Réponse au Nord, élection séparée, 9 septembre 1948, République populaire démocratique de Corée. Donc deuxième date, la création des deux États que nous connaissons, dont chacun a pour objectif la réunification par la force. Et puis en 1950, alors entre 1948 et 1950, et c'est ça qui est intéressant aussi du point de vue de l'histoire, c'est que on date nous en Occident là le début de la guerre de Corée par l'invasion le 25 juin de l'armée nord-coréenne au Sud. En réalité, cette guerre avait déjà commencé par des escarmouches extrêmement violentes autour de la partition, de la ligne de démarcation qui séparait les deux Corées. Et puis donc, s'en est suivie cette guerre de trois ans, de 1950 à 1953. Et puis, pour connecter également avec la carte de tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde sur la carte la frontière fermée que j'ai qui est tracée, on voit que c'est une frontière tout à fait sinueuse, hein, qui traverse la péninsule. En 1945, au moment de la partition, du désarmement de l'armée japonaise, c'était un trait sur le 38e. Donc ce qu'on voit là sur cette carte, c'est en fait la ligne de front de 1953.
Qu'est-ce qu'on peut ensuite raconter de la divergence entre le Nord et le Sud? D'abord, il y a des modèles économiques qui sont différents et qui vont évidemment peser sur la forme des villes. On a un modèle communiste au Nord et un modèle capitaliste au Sud. Qu'est-ce que ça change? Et finalement, c'est contre toute attente, pourrait-on dire, le Nord qui, économiquement et pendant de nombreuses années, va l'emporter sur le Sud.
Alors c'est assez intéressant, effectivement, quelque chose que beaucoup ont oublié, c'est que dans les années 60, il y avait deux dragons en Asie, et c'était le Japon et la Corée du Nord. La Corée du Nord, effectivement, avait mis en œuvre, alors Les Nord-Coréens ne parlent pas de communisme hein, en Corée du Nord, hein, en République populaire démocratique de Corée, c'est le socialisme à notre façon, mm-hmm. hein, c'est la manière de dire. Donc c'est un modèle socialiste qui s'est caractérisé bah, par une planification d'État, par l'entièreté donc des moyens de production du foncier public possédé par l'État, etc. La mise en œuvre hein, d'un développement économique sur le modèle socialiste, la mise en œuvre des communes également populaires sur le modèle chinois en Corée du Nord, etc.
Avec... Et ça fonctionne extrêmement bien.
Alors pour ça fonctionne au départ, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que la Corée du Nord, contrairement à ce qui s'est passé par exemple en Chine ou même en Union soviétique, est d'une manière générale une société qui est très lettrée, hein, qui est déjà donc très éduqué. Donc au départ, le modèle fonctionne. Il y a aussi énormément d'aide de l'Union soviétique, notamment, qui fonctionne très bien. Et donc pendant la mise en œuvre de ce modèle, hein, jusque dans les années 70, à la fin des années 70, fonctionne parfaitement bien et la Corée du Nord brille.
Et que se passe-t-il au tournant des années 80 ?
Et au tournant des années 80, ben, plusieurs éléments. Le modèle socialiste ben, qu'on a comme ce qui s'est passé en Union soviétique, comme ce qu'on a pu constater en Chine, s'essouffle. En fait, s'essouffle. D'une manière générale, le choix également de développement, qui était un choix de développement par l'industrie, et par exemple, sur le plan agricole, une agriculture qui était fondée sur des intrants très importants, sur de la mécanisation très importante, sur de l'irrigation, non pas par gravitation, mais par des pompes électriques, mmh. etc. Donc finalement, une agriculture extrêmement coûteuse et une agriculture aussi qui était assez agressive pour l'environnement et qui a... en quelque sorte beaucoup épuisé en fait les ressources naturelles, les sols.
Et alors au sud, on a un petit peu le parcours inverse, c'est-à-dire un démarrage économique un petit peu plus lent. Et aujourd'hui, la Corée du Sud, qui fait donc partie des 15 pays les plus riches du monde, comment on peut expliquer ce miracle économique coréen, Valérie Gélésie ?
Alors, il n'y a pas de miracle économique.
Il n'y a pas de miracle.
C'est ce qu'on dit, hein, le miracle. D'ailleurs, la Corée du Sud hein, parle de miracle sur le Han, pour aussi désigner Séoul d'ailleurs, la capitale. Il y a tout un ensemble de facteurs hein, pour expliquer la croissance économique sud-coréenne. Tout d'abord, effectivement, dans les années jusqu'au début des années 60, hein, au moment de l'arrivée au pouvoir du général Park Chung-hee en 1961, c'est lui qui a été l'homme fort de la mise en place hein, du modèle de développement coréen, qui est passé par plusieurs éléments. D'abord, la mise en place de plans quinquennaux de développement économique extrêmement bien réglés, contrairement à ce qui se passait au Nord, d'ailleurs. Hein, les plans étaient beaucoup plus aléatoires, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Enfin, c'est pas aussi réglé qu'au Sud. La mise en place aussi d'un modèle de développement par remontée des filières technologiques, enfin, en s'appuyant sur deux choses. La remontée des filières technologiques, on commence, par exemple, par faire des industries légères, hein, alimentaires, alimentation, textile, puis on fabrique les machines qui permettent de fabriquer les textiles, puis on fabrique les puces hein, qui permettent de faire avancer les machines, etc. On remonte comme ça les filières technologiques, avec donc donc s'appuyant sur cette direction et également sur la priorité donnée à l'extraversion économique, donc les exportations. 우리 사람들 다
만져주는데 사람들 놓쳐서 지금 한 며칠 찾는 중입니다 이거죠. Je suis venu avec tout mon groupe, mais j'ai perdu mes collègues dans la piscine. Je suis mineur au grand complexe des mines de charbon, à une heure de Pyongyang. Je ne peux pas venir souvent à cause du travail. Je profite de la visite au mausolée des grands leaders pour venir. J'aime bien venir à Pyongyang pour me détendre. Après s'être bien amusé, comme ça on pourra mieux travailler. Nous n'avons jamais été à l'étranger. Et maintenant, il y a beaucoup de parcs aquatiques, même chez nous, dans notre province, au nord de Pyongyang. On va devenir les meilleurs du monde avec nos propres forces. Vous avez d'autres questions ? On est les meilleurs.
Oui, on a d'autres questions. Extrait de Quand Pyongyang s'amuse, c'est un documentaire de Patrick Morus et Olivier François diffusé sur la chaîne parlementaire. Un film qui montre un peu autre chose que ce à quoi on s'attend au sujet de la Corée du Nord, c'est-à-dire une vie quotidienne des Nord-Coréens sous un aspect plus souriant. On a fait un panorama économique et historique. Maintenant, rentrons un petit peu dans les villes de Corée. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre là correspond à votre expérience de la Corée du Nord, Valérie Gelsaud? Vous y êtes allé à 4 reprises, si je ne m'abuse. Ce Pyongyang s'amuse, est-ce que ça vous parle?
Oui, ça représente un certain aspect de ce qui se passe à Pyongyang, encore une fois, qui est une capitale. Donc la ville capitale n'est pas n'importe quelle ville. Donc dans l'extrait qu'on a entendu du documentaire, qui est par ailleurs un très bon documentaire, très intéressant, et qui traite de quelque chose qui est effectivement assez méconnu, des loisirs en Corée du Nord et de développement des parcs d'attractions, en effet, à Pyongyang. Alors, les équipements de Pyongyang en termes de loisirs existent depuis au moins les années 70. Zoo, notamment, patinoire, cirque, etc. Il y avait tout un tas d'équipements culturels très importants qui ont été construits, en fait, qui existaient même avant la division. Ça faisait partie des attributs de la capitale et puis qui ont été construits au fur et à mesure. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, qui sont donc d'une part rénovés, et puis d'autre part, de nouveaux ensembles sont construits, notamment ce complexe aquatique. Alors il n'y en a pas plusieurs, il y a un complexe aquatique, un parc d'attractions.
Y aller est un privilège,
voilà.
Tout de même.
Y aller est un privilège, donc j'ai une
ou
étudiante...
Une récompense en tous les cas.
Une récompense, pas forcément. Beaucoup de gens y vont, enfin les Nord-Coréens vont au parc d'attractions. Alors souvent par le travail, effectivement, comme le mineur l'explique, quand ils viennent de province. Mais les Pyongyangais, depuis la fin de la famine et la monétarisation de l'économie nord-coréenne, les classes moyennes sont apparues, notamment à Pyongyang. Il y a un certain nombre de catégories qui ont assez d'argent pour aller au parc d'attractions sans que ce soit un privilège offert par le travail, en fait.
Alors à quoi ressemble cette ville de Pyongyang et quel effet fait-elle aux visiteurs? Quelle image rétinienne en gardez-vous, Valérie Gelsaud?
Alors c'est une question très intéressante parce que justement dans un de mes derniers livres qui traite d'un terrain, enfin de plusieurs voyages qu'on a fait à Pyongyang, on a essayé de mettre à distance cette image rétinienne en faisant dessiner nos photos de terrain par un peintre qui est aujourd'hui un peintre d'origine nord-coréenne qui est aujourd'hui installé au sud et qui a donc apporté à ces photos qu'on voit. J'imagine que les auditeurs ont en tête une image de Pyongyang,
notamment
allées.
Et puis la grande tour triangulaire impressionnante
qui est un hôtel en fait, voilà, qui a été construit, qui a été démarré au moment des Jeux Olympiques de Séoul pour le Festival de la Jeunesse et des Sports de Pyongyang qui a lieu l'année suivante, qui était un hôtel monumental, qui est resté longtemps comme une sorte de ruine urbaine et dont la construction a repris au début des années 2000, plutôt à la fin des années 2000, et qui aujourd'hui est une forme de, de slogan géant au-dessus de Pyongyang. En tout cas, on a des images de Pyongyang en tête qui sont justes puisque ce sont ces images des grands axes qui font
inspiration
partie
un peu soviétique.
Voilà, absolument, qui font partie aussi de la manière dont les leaders et notamment Kim Jong-il a encouragé la construction de Pyongyang avec une architecture qui doit susciter l'admiration pour le travail des leaders et de la patrie. Mais en fait, derrière toutes ces façades, il y a des quartiers dans lesquels derrière ces grands axes, les gens des squares, des gens qui pique-niquent dans les parcs, etc. Donc c'est une ville qui est difficile d'accès, effectivement, puisque quand on la visite, il est parfois difficile d'aller derrière ces façades. Mmh. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il existe justement une vie de quartier dans Pyongyang, évidemment.
Qu'est-ce qu'on peut dire du réseau de transport ? On a évidemment en tête des images de ce métro qui est là aussi un peu soviétique, une espèce, oui, de métro de Moscou, très très beau, très impressionnant et très rutilant. Mais au fond, se déplacer dans Pyongyang, comment ça se passe ? Est-ce que c'est facile, organisé ?
Alors le métro d'abord, ce qui est frappant, c'est que c'est comme en Corée du Sud d'ailleurs, hein, il sert d'abri en cas de guerre. Hein, donc c'est assez impressionnant parce que c'est des métros qui descendent très très profond dans la terre. Hein, il y a une sorte de d'oppression qu'on peut avoir, hein, dans le métro de Pyongyang.
À Séoul, il y a dans le métro des masques à gaz aussi.
Absolument, c'était, et puis jusque il y a une dizaine d'années, il y avait des exercices, hein, tous les mercredis pour en cas de guerre, hein, donc se précipiter si possible dans la première station de métro.
Donc les villes sont marquées par l'éventualité de la guerre quand même.
Absolument, bien sûr. Donc les modes de déplacement à Pyongyang sont essentiellement des transports en commun, même si il existe beaucoup de taxis, hein, que encore une fois toute cette catégorie de classes qu'on appelle les tonju, les maîtres de l'argent, hein, qui se sont développés depuis une vingtaine d'années en Corée du Nord, hein, qui maîtrisent l'économie, qui sont les agents, hein, de cette monétarisation de l'économie nord-coréenne, peuvent utiliser donc les taxis. Il y a quelques voitures, mais pas énormément, des bicyclettes aussi, et puis des transports en commun, un trolley, bus, petit bus, et puis la marche à pied.
Vous avez fait venir des architectes et des urbanistes nord-coréens, ici à Paris, Valérie Gélézeau, pour organiser des ateliers avec eux. Qu'est-ce que on peut apprendre de l'architecture nord-coréenne, ou en tous les cas des architectes nord-coréens, selon vous ?
Alors, déjà, on peut apprendre beaucoup de choses sur leur propre ville et sur leurs préoccupations, les préoccupations qui sont les leurs. Et c'est tout à fait intéressant de voir que les préoccupations des architectes nord-coréens sont marquées par plusieurs choses. D'abord, la nécessité de pouvoir faire avec peu, de pouvoir construire avec finalement des restrictions énergétiques notamment, et donc d'une part, donc cet aspect-là est assez intéressant, et d'autre part de constater que ces architectes sont aussi finalement dans des problématiques qu'on retrouve dans beaucoup d'autres situations, dans beaucoup d'autres pays. Par exemple, la question de la ville durable, hein, qui est un sujet qui devrait nous préoccuper tous, est un sujet qui les préoccupe énormément.
Et pourquoi davantage finalement qu'ailleurs ? Parce que précisément, ils n'ont pas ou pas facilement
des ressources. Pas davantage qu'ailleurs,
moi
je dirais que c'est un questionnement, les urbanistes et les architectes en Occident sont aussi préoccupés par ces aspects-là. Eux sont aussi préoccupés par des problématiques très particulièrement coréennes, par exemple la question des inondations. Hein, on a eu donc lors du dernier atelier, un des architectes a présenté un topo sur la question de ce qu'ils appellent les villes éponges, c'est-à-dire des villes capables de supporter des grands écarts hydriques, hein, soit des pluies diluviennes ou des périodes de sécheresse. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce concept des villes éponges, en fait, est un concept qui est développé en Chine également. Hein, ce qui montre que, voilà, ces architectes échangent aussi et travaillent avec des architectes chinois et des urbanistes de Chine.
Dernier point peut-être sur Pyongyang, Valérie Gélézeau. Les Occidentaux sont peut-être étonnés de voir qu'il y a des quartiers qui sont des quartiers de tours, qui pourraient très bien être des quartiers qui se trouvent à Shanghai ou qui se trouvent même en Corée du Sud. Donc il y a comme ça des îlots qui sont un peu des îlots de modernité à Pyongyang, où on se croirait ailleurs qu'en Corée du Nord.
Oui, alors tout dépend comment on prend la photo. C'est malgré tout c'est un urbanisme qui vertical, qui montre aussi que encore une fois nous sommes à Pyongyang, la capitale. Donc c'est les capitales ne sont pas des villes standards. Ce sont des villes que le pouvoir traite de manière particulière, et les programmes de logement sont aussi des programmes prestigieux. Mais pas seulement, ce sont aussi des programmes pour montrer que Pyongyang est une capitale en effet moderne, capable de construire des tours très élevées. Et ce sont également, dans le développement des villes nouvelles autour de Pyongyang, par exemple, des programmes qui visent à répondre à l'accroissement de la ville. Alors qui est modéré, puisque selon les principes effectivement du développement socialiste et du contrôle territorial des migrations, il n'y a pas eu en Corée du Nord d'explosion urbaine comme on en a pu en voir en Corée du Sud. Néanmoins, les villes croissent, et notamment Pyongyang est une ville qui augmente légèrement, et donc la construction d'une ville nouvelle avec des grands ensembles, exactement ce qu'on peut appeler des grands ensembles d'appartements, répond à cette nécessité de pouvoir fournir des logements.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors très urbain, c'est l'image aussi qu'on se fait de la Corée du Sud, Valérie Gélézo. Passons à Séoul. 85% des Coréens du Sud vivent en ville. Est-ce par choix ou est-ce un exode rural qui a été subi? Comment expliquer cette particularité coréenne?
Alors, ce sont des mécanismes c'est ni un choix ni subi, c'est complexe. En tout cas, ce sont des mécanismes géographiques qui correspondent à des transitions économiques et sociales qui ont eu lieu donc en Corée du Sud. Pour pouvoir permettre aux auditeurs de comparer avec la France, en France, on a ce qu'on appelle la transition urbaine, le moment où la population urbaine a dépassé la population rurale, c'est au milieu des années 30, je crois. En Corée du Sud, c'est en 1974 que la population sud-coréenne a passé cette transition, c'est-à-dire au moment où donc la population urbaine a dépassé la population rurale, et qui correspond également à une mutation de l'économie qui est passée d'une économie rurale et agraire à une économie urbaine, industrielle et post-industrielle, donc une économie de services. Aujourd'hui, à noter néanmoins que la Corée du Sud reste une nation encore industrielle, très industrielle. Donc c'est intéressant de le noter. Donc oui, ça correspond à des transitions, si vous voulez, lourdes.
Des transitions qui paraissent très rapides et qui créent un urbanisme d'abord de tours. C'est ça qui frappe le plus, c'est l'impression que il n'y a quasiment que des tours, qu'il n'y a absolument pas d'immeubles bas ou très peu, et encore moins de maisons, et que ces tours peuvent surgir comme ça dans la campagne, qu'on les voit de très loin. Donc il y a quelque chose d'extrêmement impressionnant en fait dans cette ville coréenne.
Et c'est vrai que la transformation du logement à Séoul et dans les villes coréennes a été particulièrement brutale, puisque en 1970, à peu près 70% du logement était en logement individuel. Aujourd'hui, c'est le contraire. 70%.
Donc ça signifie qu'il a fallu tout raser pour
reconstruire. Pas forcément,
dessus.
Non. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la croissance urbaine a été réalisée notamment en construisant ces grands ensembles d'appartements. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui s'est passé en France, tout à l'heure je vous disais que la transition urbaine s'est faite dans les années 30, en France, la construction des grands ensembles a été après la guerre. Après 1950. Donc au moment où, en fait, les grands ensembles en France se sont installés en périphérie. En Corée, ils ont accompagné cette transition urbaine. Donc ils se sont installés, ils ont été construits au cœur des villes finalement.
On ne retrouve pas forcément la ville ancienne quand on se balade à Séoul, à part à certains endroits, mais qui sont un petit peu sanctuarisés quand même, et qui ne sont pas finalement si nombreux que cela. On a l'impression que partout, la ville n'a pas plus de 50 ans.
Voilà, et donc c'est d'ailleurs pas faux. Enfin, c'est pour une bonne et simple raison, c'est que déjà en 1953, Séoul était détruite à 70%. Donc, faut s'imaginer hein, ce qui restait de Séoul. Et Pyongyang, c'est encore pire. Hein, comme la Corée du Nord a été bombardée, contrairement à ce qui s'est passé en Corée du Sud. Donc, il restait pratiquement rien à Pyongyang. Hein, il n'y avait pas grand-chose de... Il restait, comme l'a dit votre archive, hein, des cendres. Donc, Séoul détruite à 70%. Donc, déjà, la reconstruction s'est faite c'était à partir de 1953. Ces grands ensembles, ils se sont construits sur deux modes différents. Premièrement, la rénovation urbaine. Dans les années 60 et 70, a commencé par le centre-ville, autour du centre-ville, où s'étaient construits des bidonvilles. Donc les immeubles d'appartements ont permis de rénover ces bidonvilles. Et puis, à partir des années 80-90, les nouveaux quartiers ont été construits en grands ensembles d'appartements. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant en Corée du Sud, c'est que Séoul est souvent le laboratoire d'innovation, de politiques qui sont ensuite expérimentées ou en tout cas lancé dans toutes les autres villes coréennes. Et donc la plupart des grands ensembles d'appartements construits dans les années 70 et 80 étaient à Séoul. Hein. Ont permis aussi de développer les grands quartiers au moment des Jeux Olympiques, des Jeux Asiatiques et des Jeux Olympiques de 88, hein, qui ont vu émerger des quartiers entièrement nouveaux dans le sud-est de Séoul.
Mais alors justement, les Jeux Olympiques de 88 qui permettent de faire émerger encore davantage la Corée du Sud dans ces années se font quand même dans la douleur parce qu'il y a des manifestations contre le fait d'être délogé par un certain nombre d'habitants. Il y a même des morts, des manifestations qui durent 2 ans, des affrontements avec la police. Donc qu'est-ce que ça nous dit finalement de l'urbanisation et de la façon dont cet urbanisme a été implémenté de façon peut-être parfois rapide ou de façon peut-être parfois militaire, j'ose le mot.
La Corée du Sud était une dictature militaire jusqu'à la fin des années 80. La démocratisation en Corée du Sud, c'est 1987. Donc effectivement, et c'est tout à fait symbolique, hein, l'entrée en scène de la Corée du Sud au moment des Jeux Olympiques en 88 est symbolique à bien des égards. Et quand vous parlez des affrontements avec la police, alors il y avait plusieurs causes hein, de ces manifestations. Il y avait d'abord qu'on peut confondre peut-être. Mais d'abord, toutes les manifestations des étudiants, des ouvriers pour la démocratisation qui avaient lieu à Séoul principalement, de manière extrêmement violente, avec des affrontements effectivement entre la police et les manifestants. Et puis, depuis les années 70, des contestations, des luttes des squatteurs, des habitants de ce qu'on appelait les bidonvilles, qui n'étaient pas forcément des bidonvilles, c'était souvent des gens en fait qui avaient construit leur maison sur des terrains qui ne leur appartenaient pas. Et donc un des grands objectifs de la municipalité de Séoul entre 70 et 90 a été de récupérer le foncier. Donc dans les années 70, manu militari par la force. Hein, d'ailleurs, un des maires de Séoul, alors qui était un petit peu antérieur, qui était le maire Kim Hyun-ok, qui était maire de Séoul entre 66 et 70, était appelé Bulldozer Kim, hein, parce que sa méthode pour rénover le centre-ville, hein, c'était de passer au bulldozer, effectivement, et d'éjecter les squatteurs urbains. Mais à partir des années du milieu des années 80, d'autres méthodes quand même ont été mises en place, des systèmes de rénovation par participation publique-privée, n'étaient pas aussi violentes, même si certains squatteurs effectivement continuaient de protester, notamment les gens qui n'étaient pas propriétaires de leur logement.
Mais il reste quand même, Valérie Gélézeau, cette impression d'une forme alors de brutalité, hein, qu'on peut d'ailleurs esthétiquement apprécier aussi, avec des autoroutes urbaine. En effet, ces forêts de tours qui se ressemblent beaucoup et qui sont qu'on reconnaît par leur numéro. Donc il y a quelque chose qui, pour l'œil occidental, qui n'aime pas le grand ensemble, à qui on a appris à ne pas aimer le grand ensemble, qu'on considère en France comme étant un échec, du coup étonne.
Oui. Moi, quand j'ai commencé ma thèse dans les années 90 sur le grand ensemble en Corée, c'était assez difficile d'expliquer à mes collègues en France que je ne travaillais pas sur les banlieues de Séoul et ni sur les catégories
défavorisées. Il n'y a pas de vraie différence finalement entre les différents quartiers de Séoul, que ce soit des quartiers centraux ou des quartiers plus excentrés. Ils ont cette même couleur un petit peu urbaine.
Alors en fait, pour l'œil, je pense que si, il y a de très grosses différences. Ce qui différencie la Corée de la France, c'est qu'il n'y a pas cette espèce d'image et d'adéquation entre une forme architecturale, un contenu social et un problème urbain. C'est pas le cas à Séoul. Il y a toutes sortes maintenant de grands ensembles qui sont certains d'ailleurs sont assez luxueux. En fait, il y a des marques, les sociétés de construction des marques, on les reconnaît assez bien, on peut les différencier.
Donc il n'y a pas de stigmatisation
selon leur localisation. Sont encore des types de logements qui sont assez appréciés, qui sont très appréciés par les classes moyennes et la bourgeoisie urbaine, même si donc les catégories les plus favorisés ont tendance à apprécier également les maisons individuelles, mais il n'y a pas énormément de maisons individuelles à Séoul. En tout cas, il n'y a pas cette adéquation et cette image très négative du grand ensemble, ou en tout cas du logement collectif en Corée du Sud.
Alors ça, c'est très intéressant, Valérie Gélézeau, parce que ça pose une question qui est la question de ce qu'est le grand ensemble, et finalement, est-ce que c'est en France, en Europe, on n'a pas su faire un grand ensemble qui fonctionne, puisque dans d'autres pays, comme la Corée et comme Séoul, le grand ensemble est un endroit où les Coréens veulent vivre et continuent visiblement de vouloir vivre. Est-ce que c'est pas tout simplement une manière de s'interroger sur la modernité telle qu'elle est vue chez nous et là-bas ?
Oui, on peut s'interroger là-dessus. On peut s'interroger aussi sur la question de la fatalité dans une forme urbaine. Tout dépend du contexte, en fait, de ce qu'on fait de l'architecture et de comment cette architecture évolue et de comment on en prend soin également. Parce que les grands ensembles coréens des années 70, il faut dire que la plupart ont disparu parce qu'en fait, ils ont été détruits et puis reconstruits.
Donc, il y a une facilité à détruire et reconstruire.
Pour l'instant, voilà, il y a eu cette transformation donc des quartiers, des premiers quartiers qui ont été construits, notamment à Séoul, dans les années 70 et 80. D'autres types de grands ensembles qui sont des grands ensembles luxueux pour l'instant sont très bien entretenus et ne posent pas de problème. Il existe néanmoins dans des villes de province des grands ensembles des résidences en logement collectif qui sont construites et qui posent problème. Donc la variété, si vous voulez, des situations en Corée du Sud est beaucoup plus grande que ce qu'on peut rencontrer en France, je pense. Et notamment, l'image est différente.
Alors, même chose, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la ville coréenne du Sud, selon vous, Valérie Gélézeau ?
Alors, on peut apprendre beaucoup de choses, et notamment, oui, que ces logements collectifs, il n'y a pas de fatalité, en fait, dans les formes urbaines, de ce type de formes urbaines, de grands ensembles collectifs. Je pense que ça, c'est quand même assez important de le souligner.
Alors, Séoul est une ville mondialement connue, qui attire de plus en plus, qui cherche à attirer davantage de touristes. Comment, au fond, s'y prend-elle ? Qu'est-ce que le soft power mis en place à la fois par l'État et puis par les municipalités produit sur cette ville de Séoul, Valérie Gélézeau?
Alors, Séoul est une capitale qui attire effectivement beaucoup de touristes, déjà des touristes en Asie. Alors là, c'est un peu compliqué d'en parler après la crise sanitaire, puisque bon, faut savoir que Séoul a... la Corée du Sud a été s'est réouverte au tourisme international simplement en avril dernier. Donc Séoul avait beaucoup changé pendant la crise sanitaire et même était assez différente de ce que moi j'avais connu quand j'y suis retournée là en septembre dernier. Mais donc On va parler de Séoul avant la crise sanitaire ou de ce qu'elle va redevenir actuellement. C'est une ville qui attire énormément de touristes en Asie, notamment depuis la Chine, les touristes japonais et puis une partie de touristes qui viennent d'Asie du Sud-Est. Donc c'est vraiment une grande ville touristique. Séoul a été transformée depuis une vingtaine d'années.
Il y a un certain nombre de grands architectes aussi qui sont venus poser leurs pattes sur la ville.
Voilà, alors il y a plusieurs choses qui se sont passées. À la fois la patrimonialisation, la reconstruction, voire la reconstruction de tout un ensemble de monuments de l'histoire de la ville, hein, qui ont été rénovés, réutilisés, mis en valeur de manière assez importante depuis une vingtaine d'années. La place centrale de Séoul a été complètement transformée. Enfin, c'est encore une fois, c'est assez impressionnant de voir comment cette place a été rendue aux piétons, par exemple, alors que dans les années 90, c'était une sorte de place qui était envahie par les voitures, la circulation. Donc aujourd'hui, c'est une grande esplanade assez agréable. Donc vraiment des très grands travaux urbains qui ont été réalisés.
Même si la voiture de Séoul. Vous diriez qu'il continue d'y avoir une place assez prépondérante à la voiture, même si c'est en décroissance, comme un peu dans toutes les grandes villes du monde.
Il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire que dans certains espaces, disons, monumentaux, importants, centraux, culturels, ont été rendus aux piétons et aux touristes, et donc ont fait l'objet de grands aménagements à des fins touristiques. Ça n'empêche pas que on a encore des autoroutes urbaines, des voies très larges et beaucoup de voitures à Séoul. Ça, ça n'est pas incompatible. Et la deuxième chose qui a été qui caractérise Séoul aussi, c'est le geste architectural, c'est-à-dire de grands architectes internationaux qui ont été invités pour faire de grands projets très modernes.
Donc Marion Botta et Rem Koolhaas ont fait le musée LEM.
Oui.
On peut citer aussi le français Dominique Perrault avec l'université Iowa.
Voilà.
Donc c'est une politique vraiment.
Zaha Hadid aussi. Qui a fait un très grand complexe, toujours associé avec la mise en valeur aussi d'une partie de l'histoire de la ville. En l'occurrence là, le stade de Dongdaemun, avec le premier stade construit avant la colonisation. Enfin, des projets vraiment très intéressants, effectivement. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자
Géographie à la carte sur France Culture et le célèbre tube Gangnam Style du rappeur sud-coréen Psy. Gangnam, c'est un quartier de Séoul, un quartier cool de cette ville cool. Là aussi, on est dans le soft power coréen, la K-pop qui maintenant est de très dominante finalement parmi les jeunes gens du monde entier qui l'écoutent énormément. Est-ce que ça va ensemble finalement, l'urbanisme digital, moderne, cool de Séoul et puis de Busan aussi, et puis le développement un peu de la culture coréenne et de son soft power partout dans le monde, Valérie Gélézo?
Alors c'est intéressant, dans la vidéo, dans le clip de Gangnam Style, on voyait très bien à la fois ces grands immeubles d'appartements, on voyait Gangnam, on voyait aussi des espaces près du fleuve qui était un petit peu en friche, laissé à l'abandon. Si on regarde bien le clip, j'encourage les auditeurs à regarder de nouveau ce clip pour voir plus.
On l'a beaucoup regardé.
Voilà, que les grands ensembles. Alors, est-ce que ça va ensemble? En tout cas, le soft power coréen va avec une certaine forme d'exportation des produits coréens, qu'ils soient, disons, matériels, que ce soit des perruques ou des clips vidéo ou des séries.
Ou des téléphones portables.
C'est-à-dire que l'État sud-coréen met en œuvre des politiques extrêmement actives. Et sur le plan culturel, il a combiné d'une part une protection, hein, de son, par exemple, de son cinéma, une politique culturelle très active de protection de son patrimoine, avec une politique d'exportation et de formation pour pouvoir effectivement exporter donc des séries, notamment. Ça a commencé par les mini-séries, les dramas, ce qu'on appelle les dramas sud-coréens, qui ont eu du succès, d'abord auprès des spectateurs japonais, mais aussi chinois, et puis en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, du Sud, puis en Europe.
D'ailleurs, comment est-ce que vous expliquez, vous, en tant que géographe, mais aussi peut-être à titre personnel, le formidable développement de cet attrait pour la culture coréenne à l'étranger? Qu'est-ce qui, dans la K-pop, par exemple, séduit autant le monde, selon vous, Valérie Gélézon?
Alors, je pense qu'il y a, déjà ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est pas le monde qui est séduit comme ça, ex nihilo, par un produit qui arrive. C'est toute une dynamique qui, une sorte de lame de fond qui vient d'abord.
Il y a une infrastructure pour diffuser la
culture.
Voilà,
il y a tout un ensemble, il y a un système quand même qui promeut cette culture.
Et ça, c'est pensé jusqu'au niveau de l'État.
Ça, c'est une politique qui a été très active en Corée du Sud pour promouvoir effectivement le soft power. Donc, ce qui a joué un rôle extrêmement important. Après, sur le plan culturel et technique, effectivement, les Coréens ont des bonheurs de production, on va dire. Hein. Les académies de formation de ces groupes, des boys bands, tous ces producteurs de séries. Donc, ils ont une technicité aujourd'hui qui est assez remarquable et qui est effectivement rencontre un public maintenant qui est mondial, hein, et qui a d'ailleurs des conséquences assez extraordinaires, par exemple sur l'apprentissage de la culture coréenne et de la langue coréenne, hein. Aujourd'hui en France, les départements de langue et civilisation orientale qui explosent entre guillemets, on a vraiment une vague coréenne, hein, de l'apprentissage du coréen, parce que les jeunes en fait veulent apprendre le coréen pour pouvoir suivre dans le texte les paroles des rappeurs ou les séries coréennes.
Et en même temps, tout cela peut se faire parfois dans la souffrance. On sait que les rappeurs en question et les boys bands en question sont soumis à des cadences de travail absolument effroyables, et donc ça n'est pas toujours évident.
Ah oui, c'est un entraînement en effet. Hein,
c'est peut-être le cas aussi pour beaucoup. Pour beaucoup de monde en Corée, dont le développement extraordinaire a été, pendant les dernières décennies et encore aujourd'hui, basé sur le travail et sur un travail souvent très intense.
Alors, il y a des histoires, l'histoire de la croissance coréenne, effectivement une histoire qui, dans les années notamment 70 et 80, passe par énormément d'oppression, politique, d'oppression au quotidien des travailleurs, etc. Donc, en effet, dans la souffrance. Je dirais pas que c'est le cas encore aujourd'hui.
Il y a un changement générationnel aussi.
Voilà, exactement. Puis là, la Corée, comme vous l'avez dit dès votre introduction, c'est un pays qui est aujourd'hui démocratisé. Et donc, on n'est plus du tout dans les mêmes, systèmes, dans le même système, dans les mêmes structures que ce qu'on a pu connaître en Corée dans les années 70 et 80.
Est-ce que le mot vitesse, ce sera peut-être le dernier mot, vous semble un mot qui peut qualifier la Corée et aussi la forme de la ville en Corée du Sud?
Alors, la vitesse, le mot vite, vite, pali, pali, c'est un mot qui est très employé en Corée, en tout cas qui était très employé en Corée quand moi j'ai commencé à y aller dans les années 90. Et c'est vrai que le développement, finalement, le développement coréen s'est fait, disons, en une soixantaine d'années, là où il a fallu à l'Europe plus 150 ans. Voilà, ça a été beaucoup plus rapide sur le plan strictement.
Et la vitesse est toujours la même aujourd'hui?
Aujourd'hui, peut-être non, pas tout à fait toujours la même.
Peut-être un petit ralentissement. Merci beaucoup Valérie Gélézeau pour ce voyage dans l'univers urbain et aussi culturel, mais ça va ensemble, des deux Corées. Pour aller plus loin, je recommande le livre Urbanité coréenne que vous avez dirigé avec Benjamin Joanneau. C'est aux éditions de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je cite également Séoul Mégapole que vous avez publié cette fois aux éditions Autrement. C'était Géographie à la carte, une émission proposée aujourd'hui par Jean-Christophe Francis, Marie Soisic-Fraboulet, Mathieu Garrigou-Lagrange et Valentin Bobinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Je vous donne rendez-vous demain à 19h en compagnie d'Alice Géraud.
Arnaud Laporte.
Scénariste et autrice, Alice Géraud a été journaliste pendant 15 ans à Libération avant de cofonder et diriger la rédaction du site Les Jours. Son nouveau livre enquête, Sambre, vient de sortir chez Jean-Claude Lattès et Jean-Xavier Delestrade en réalise l'adaptation en mini-série. Avec elle, la non-fiction a toute sa place dans les rayons de littérature.
Affaires culturelles, demain à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les enjeux, c'est chaque matin l'actualité en France et à l'étranger.
Marguerite Caton.
Les enjeux territoriaux pour ancrer les débats à l'échelle locale. Les enjeux internationaux pour mesurer les mouvements géopolitiques du monde.
Les enjeux, du lundi au vendredi à 6h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
La semaine prochaine dans Géographie à la carte, on s'intéressera au séisme et aussi à la résilience des villes et des personnes. Mais tout de suite, il est 22h sur France Culture. Et on retrouve le journal de Marie-Aimée Copleutre. Bonsoir Marie-Aimée.
Bonsoir Mathieu. Les suites de l'enquête après la mort de cette enseignante, Agnès Lassalle, poignardée dans son lycée à Saint-Jean-de-Luz hier. Une minute de silence a été observée aujourd'hui dans les collèges et lycées ouverts. Bleu et jaune, ce soir, la tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine. Un symbole pour un an de guerre demain. Sur le terrain, le conflit perdure notamment avec les groupes de mercenaires russes Wagner. TikTok, l'application chinoise, va être interdite pour les employés de la Commission européenne pour des raisons de sécurité. Une enquête inédite publiée par 17 médias européens aujourd'hui. Pour la première fois en Europe, les polluants plastiques, les PFAS, sont cartographiés. On en parle avec l'invité de ce journal, Stéphane Aurel, journaliste au Monde, qui a coordonné l'enquête en France. Le lycéen qui a tué sa professeure